Cette semaine, on reçoit la sage-femme Toby Lynn Bayarova et Catherine Richard nous parle des dimensions spirituelles de l'accouchement. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine Foi et culture. Ici Antoine Malenfant pour votre animateur pour cet épisode où il sera question de naissance, de périnatalité et de spiritualité. Et j'ai la joie d'être très bien accompagné, des accompagnants à la naissance d'aujourd'hui.
On va accoucher de cette émission.
On va accoucher de cette émission. J'ai réussi à accoucher de ma première phrase, hein, ce qui est déjà si mal. James, bonjour.
Salut Antoine.
En forme?
Toujours. Toi, j'ai mangé deux beignes, là, fait que je suis plein de sucre. Ça...
Après ça, il va y avoir un
ouais, mais là, un crash, ça va être après l'émission,
moi. je le souhaite. Dis-moi, James, tu t'intéresses quand même aux questions de la naissance, de la périnatalité, spécialement depuis que tu es papa, probablement.
Exactement, spécialement depuis que je suis papa. Oui, j'ai eu trois enfants qui sont nés en maison de naissance, une à l'hôpital. Donc, non, pour moi, j'ai appris à découvrir le merveilleux monde de l'accouchement. C'est fantastique, ça m'émerveille à chaque fois.
Mm-hmm. On a la joie d'accueillir pour la première fois, on n'est pas du monde, on va l'appeler chroniqueuse invitée.
Tiens,
Catherine Richard, bonjour.
Allô.
Catherine, tu es ici un peu pour nous parler des dimensions spirituelles de l'accouchement. On aura l'occasion là, d'en discuter plus tard dans l'émission, mais déjà, donne-nous un petit teaser. Là. Penses-tu qu'il y a un aspect spirituel à l'accouchement?
Absolument. Sinon, ce serait seulement une... exploit sportif ou physiologique. Là, non, je pense qu'il y a quelque chose à dire là, de ce côté-là.
De toute façon, même si elle disait non, j'ai un livre ici qui s'appelle « L'accouchement, une traversée spirituelle ».
Tu vois, alors pourquoi tu m'as invité?
On aurait pu. Mais les auteurs sont en France, là, donc ça aurait été compliqué. Ouais. On est très heureux de t'avoir à l'émission avec nous, Catherine. C'est vraiment le fun. James, on l'a évoqué très subtilement tantôt, mais il va être question de naissance, de spiritualité, mais on voulait aborder aussi la question des sages-femmes, mm-hmm. parce que c'est une façon de vivre ce phénomène, cette expérience, mais qui est peut-être un peu marginale, un peu méconnue, peut-être pour mettre la table, là, nous donner quelques données sur cette...
Je vais te donner quelques données,
Antoine. Donne-moi quelques données.
Mais d'ailleurs, c'est important de souligner que le 5 mai chaque année, il y a la Journée internationale des sages-femmes, de la sage-femme, puis en 2024, au Québec, on va fêter les 30 ans de la pratique sage-femme. Donc, depuis 30 ans, là, la profession a été légalisée en 1999. Il y a eu des projets pilotes là, qui sont à la nature de ces, à la base de ces légalisations. Puis, l'Ordre des sages-femmes du Québec a été créé. Il y a eu un baccalauréat qui a été pratique, qui a été aussi mis en place à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Donc, c'est une pratique qui est vraiment bien encadrée aujourd'hui. Petit quiz comme ça.
Ooh.
Mes données datent de 2017-2018, je le dis d'emblée parce que c'est important de relativiser que c'est probablement en plus aujourd'hui. Mm-hmm. Mais selon vous, il y aurait à peu près combien de femmes, je vais commencer, combien de bébés sont nés en 2022 au Québec selon vous?
Au total?
Oui, au total.
Peu importe où.
OK. Ouais. Hey, je sais pas.
30 000? 50
000?
Alors, c'est 80 700 bébés qui sont nés en 2022.
Okay.
On additionne nos deux chiffres,
ça marche. L'esprit complémentaire.
C'est ça. Donc, en 2017-2018, sur cette, on va dire, mettons, peut-être semblable, environ, les un peu moins, là,
ouais.
les naissances, combien de femmes ont accouché avec le soutien d'une sage-femme?
Sur les 80 000...
Mon Dieu, il faut faire une règle de trois, là.
5 000?
J'aurais dit, mettons, 10, mais juste pour être...
Vous n'êtes pas loin, selon les données de 2017-2018, c'est 3500 femmes qui ont accouché avec le soutien d'une sage-femme, donc c'est à peu près 4% des naissances. On parle de...
Ça, c'est il y a 5-6 ans, de ça, 7 ans.
Ouais, d'après moi, ça doit être plus maintenant.
Mm-hmm. C'est 11,8% au Canada, donc 7% des suivis de grossesse. De manière générale, combien de ces accouchements-là, des 4% avec les sages-femmes, sont en maison de naissance, en domicile ou à l'hôpital?
OK, parce que là, il faut spécifier. Avoir un suivi avec une sage-femme, ça ne veut pas nécessairement dire que l'accouchement se déroule dans une maison de naissance. Il peut avoir lieu à la maison de la patiente, entre guillemets.
Ça,
c'est plus marginal. Je dirais 1/10, là, peut-être. Et une très large majorité doit se passer en maison de naissance, puis il doit rester, je ne sais pas, peut-être sur 10, 3, 4.
Puis d'ailleurs, nos collègues français nous apprenaient qu'en France, on a par défaut une sage-femme à l'hôpital.
Oui, c'est vrai.
Mais donc, c'est 75% des accouchements avec sage-femme ont lieu en maison de naissance, 20% à domicile et 5% en centre hospitalier.
OK, j'aurais dit l'inverse, moi, c'est drôle. Mm-hmm. Donc, ce qui est le plus marginal, c'est un centre hospitalier avec sa femme ici. Mm-hmm. On pourra creuser cette question-là notre invité.
Puis j'ai vu même que statistiquement, il y a une différence avec le reste du Canada où la proportion de sages-femmes qui accouchent à l'hôpital est plus élevée qu'au Québec.
Peut-être qu'il y a plus de liens entre les milieux.
Peut-être qu'ils sont plus bienvenus aussi.
On pourrait explorer ça avec notre invité. Avais-tu d'autres données à nous?
Ici, au Québec, il faut dire qu'il y a 21
tu
maisons.
Tu peux dire non aussi. Là,
il y a 21 maisons de naissance au Québec. Puis
dans
le Québec compte
régions,
en ce moment plus de 250 sages-femmes et le Canada près de 1900. Donc, pratique qui est en évolution, constante évolution. Il y a des listes d'attente.
En demande croissante.
Exactement.
C'est ça. Alors, si vous voulez une sage-femme...
Pour rentrer aussi au baccalauréat, c'est pas si évident.
Non,
parce que
c'est
très... Ma fille se prépare pour ça aussi, ces études-là.
Oui,
puis c'est assez contingenté. Seulement une université dans la région.
Très, très exigeant.
Merci à vous deux. Et maintenant, notre invitée de la semaine. Chaque jour, elle fait naître des mères en les accompagnant dans un des moments les plus grands de leur vie. Accueillons la sage-femme Tobylyn Bayarova. Tobylyn Bayarova, bonjour et bienvenue à On n'est pas du monde.
Merci beaucoup.
Alors, Tobylyn, tu es sage-femme depuis 25 ans.
Presque 25 ans. Bientôt, ça va être 25.
Ça va être ton jubilé très
bientôt.
Oui! Presque autant que l'existence des sages-femmes au Québec.
Presque, oui, c'est ça. C'est ça, j'étais embauchée en 98, alors pendant les projets pilotes et très peu après, avec la création de l'Ordre des sages-femmes, j'étais sous l'égide de ça.
Et tu pratiques dans la région de l'Outaouais?
Oui, c'est ça, à la maison de naissance de l'Outaouais.
Depuis le début, je pense?
Oui, depuis le début.
Et ça a été là que ça a commencé, cette aventure-là?
Oui, c'était la première maison de naissance à ouvrir ses portes en 94.
Alors, Tobylyn, on en parlait un petit peu en début d'émission, la pratique sage-femme, c'est assez marginal, presque marginalisé, j'oserais dire, dans le système médical, de moins en moins, on l'espère, du moins.
De moins en moins.
De moins en moins. Alors, mais ça reste une minorité de la population qui a accès à ce service-là et demeure encore aujourd'hui un certain nombre de préjugés ou de mythes autour de la pratique, ou de craintes, ou d'incompréhension, d'ignorance autour de cette pratique-là. Alors, on est très heureux de t'avoir avec nous aujourd'hui, peut-être pour mettre un peu de lumière sur ce qu'est tout simplement la pratique sage-femme. Je commencerai avec une question très grave, mais très simple.
Okay.
C'est quoi une sage-femme?
Une sage-femme est une pourvoyeur de soins primaires, comme un médecin de famille, par exemple, qui offre un suivi global de la grossesse, de l'accouchement et de la période postnatale nouveau-née. Donc, on suit les femmes pour à peu près 9 mois, mais ça va inclure les 6 semaines après la naissance. On offre tout le suivi médical, mais aussi un suivi qui va comprendre les préoccupations de la famille, les rêves, les préférences, toutes les discussions de choix éclairés, ainsi de suite, pour cette période-là. Comme les médecins de famille, nous avons des relations de consultation et de transfert de soins avec les gynécologues et les pédiatres. Donc, une femme qui est sous un suivi sage-femme va avoir accès à tout ce qu'elle aura besoin, sans exception, mais nous offrons la majorité de ce qu'une femme aura besoin. Une femme qui reste dans la normalité et son bébé aussi va voir que la sage-femme ou ses sages-femmes pendant le suivi de grossesse.
Et tout ça est couvert par la Régie de l'assurance
maladie du Québec. Oui, tout ça, c'est couvert par le ministère de la Santé à travers les CISO.
Parce que le suivi est un peu plus, disons, il y a un accompagnement qui est pas un peu plus soutenu, mais c'est peut-être pas le bon terme. Mais par exemple, prenons un exemple très concret, les rencontres prénatales, durant tout le suivi de grossesse, c'est pas 5, 10, 15 minutes sur le coin du bureau, ça peut durer jusqu'à une heure de rencontre. On pourrait se dire, mais ça doit coûter une fortune à l'État, ça.
Bien, on dirait que d'après les analyses qui ont été faites, qu'un suivi sage-femme ne coûte pas plus cher au système de la santé. Puis, ça peut coûter moins cher dans le sens que les femmes qui ont un suivi sage-femme, si on parle de la population des femmes qui sont suivies, il y a moins d'interventions. Et parce que les interventions qui sont parfois nécessaires, ouais, vont comprendre aussi les risques de complications. Ça peut coûter plus cher. Et une chose qui peut sauver beaucoup au système de la santé, c'est les taux d'allaitement qui sont beaucoup plus élevés.
Ah ouais.
Pas juste l'initiation, mais c'est la continuation. Et on sait que l'allaitement est associé à beaucoup moins de maladies, d'infections, ouais, ainsi de suite. Alors, il y a des façons que ça sauve de l'argent au système de la santé. Je dois dire que vous avez parlé un peu de la façon que c'est contingenté, mm-hmm, un peu avoir accès à un suivi sage-femme. Ça, c'est un peu plus prononcé au Québec dans le sens que le gouvernement a décidé à investir dans les maisons de naissance qui ont beaucoup d'atouts pour la population.
Ouais.
Mais ceci étant dit, quand on investit dans le béton, c'est beaucoup plus freiné. C'est moins flexible que ce que l'Ontario ou Colombie-Britannique ont choisi comme modèle de soins.
Ben, parlons-en. Qu'est-ce qui se passe ailleurs dans d'autres provinces? Quelle est la différence en Ontario ou en Colombie-Britannique? Les sages-femmes font plus de pratiques à domicile ou en milieu hospitalier?
Ben, parce que la pratique n'est pas centrée dans une maison de naissance qui a besoin de fonds pour être soutenue comme instance physique, comme c'est un bâtisse.
Ouais.
En Ontario, par exemple, et c'est la même chose en Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan, ainsi de suite, la sage-femme a besoin d'avoir les privilèges en centre hospitalier, puis elle a besoin d'avoir un cabinet. Et c'est tout.
Mm-hmm. Okay.
Donc, elle peut louer des endroits, mais ça veut dire qu'il n'y a pas d'accouchement en maison de naissance ou très peu.
Okay.
Il y a des maisons de naissance privées en Alberta, si je ne me trompe pas. Je ne pense pas qu'on en a des publics. Et il y a maintenant quelques maisons de naissance en Ontario qui ont été construites par le gouvernement, mais c'est l'exception, ce n'est pas la règle. Et moi, je vois l'intérêt à avoir les maisons de naissance au Québec. Je pense que c'est vraiment intéressant.
Ouais.
D'avoir accès à ce lieu qui symbolise l'accouchement naturel. Mais ceci étant dit, il faut payer pour.
C'est une lame à deux tranchants. Oui,
en tout cas, pour les pères, moi, je vois tout l'intérêt des maisons de naissance. Ouais, ouais.
Pourquoi, James?
C'est la grosse différence.
Non, c'est parce que, tu sais, quand on accouche à l'hôpital, bien, c'est sûr, on a un lit d'hôpital, puis souvent, le conjoint, en tout cas, va se contenter de la banquette ou, je sais pas trop, l'espèce de lit de fortune qui est à côté, alors qu'en maison de naissance, on a quoi, des lits, c'est lit queen?
King,
je sais plus, là.
C'est pas king,
malheureusement.
Ah non,
c'est queen.
Non, ça m'appelle, c'est king.
Ouais, c'est ça. C'est des grandes chambres avec le bain. Ben, c'est bien sûr le bain pour l'accouchement, là, entre autres, là, mais...
Salle de bain privée.
On va apporter un grand plateau de fruits à la femme après son accouchement. Tu sais, il y a plein de petites attentions comme ça. On sent, là, c'est silence, c'est calme, on peut se reposer, on ne vient pas nous déranger toutes les 4 heures pour... tu sais, c'est comme le brouhaha de l'hôpital là, qu'on en moigne. Non, c'est vraiment, il y a un niveau de confort et d'intimité qui est super.
Ben, ça me permet de faire le pont, Toby, avec ce que tu disais au début, dans l'approche sage-femme, oui, il y a l'aspect plus médical, là, mais il y a aussi la dimension plus psychologique, environnementale. C'est une approche qu'on pourrait qualifier d'holistique ou de oui, systémique, je ne sais pas comment le dire. Mais
holistique, globale, on essaie d'être présente à la personne au complet.
Oui, dans toutes ses dimensions.
Dans toutes ses dimensions et à la famille aussi.
Bon, c'est ça. Alors, le rôle du conjoint, ça peut être quoi dans un accouchement?
C'est vraiment défini par la femme devant nous et par son conjoint. Alors, au minimum, c'est qu'on aime avoir la présence du conjoint pendant toutes les consultations. Il y a un espace pour toutes ces questions, pas juste les questions de la femme enceinte, mais aussi les questions du conjoint. Ça peut être les questions de la belle-mère, ça peut être les questions c'est vraiment défini par la famille.
Ouais.
Il y a certains pères qui veulent recevoir leur propre bébé dans leur main à la naissance, puis on est là pour... c'est sûr que c'est pas possible à 100%, mais dans la mesure du possible, on veut faciliter ça. Le fait que toute la famille puisse être dans un même lit après pour avoir leur assiette de fruits, accueillir le bébé, le fait qu'on n'a pas besoin d'interrompre beaucoup parce qu'on a des accouchements à faible risque. Alors, ça veut dire que on fait notre... surveillance du bébé et de la mère, mais on a la possibilité de le faire de la façon la plus discrète possible pour permettre à la famille, au papa, maman, bébé, de se connaître dans ce moment magique,
le
privilégié.
Le
pot à pot, mais aussi le silence et l'intimité de la chambre, parce que les maisons de naissance ne sont pas des mini-hôpitaux, quoi qu'on soit bien équipé, c'est sûr, mais c'est des maxi-maisons. Et avoir tout le suivi en maison de naissance, ça permet à la famille d'apprivoiser les lieux et de faire en sorte que les lieux les appartiennent. Alors, je pense que ça fait une grosse différence à la famille d'être dans un endroit qui est tellement familier et paisible, intime.
Là, on parle de tout ça comme si c'était merveilleux toujours. Mais bon, je ne dis pas si c'est ce que tu dis, mais on imagine quelque chose de très, très beau. Mais des fois, l'accouchement, c'est plus difficile. Et
mais
même des fois, ça se passe mal. Il y a une crainte que j'ai souvent entendue, en tout cas, qu'est-ce qu'on fait si ça vire mal? Est-ce que les sages-femmes sont capables de prendre des bonnes décisions? Est-ce qu'elles sont capables techniquement de faire poser les bons gestes? Ce n'est pas des médecins. Alors, il y a des craintes qui circulent par rapport aux sages-femmes. Comment vous appréhendez ça?
Bien, je pense que on accueille avec plaisir toutes les questions pour commencer, parce qu'on ne peut pas nous obfusquer avec des questions comme ça. La sécurité nous préoccupe beaucoup.
Ben oui.
Alors, on a assez d'équipement à la maison de naissance pour stabiliser les situations, mais pas trop pour nous tenter de rester quand c'est vraiment le temps d'être à l'hôpital. Et je comprends pour les gens qui ne connaissent pas la pratique sage-femme et qui confondent la pratique sage-femme avec les accompagnantes à la naissance, où on dit parfois des doulas. Les doulas, je les adore, elles ont des compétences extraordinaires, mais elles ne sont pas là pour faire des gestes cliniques. Et tout le côté formation médicale, c'est vraiment la même chose que pour les infirmières, pour les médecins de famille, pour les gynécos, pour des grossesses à faible risque. Alors, on est habilité à poser des gestes dans des urgences. On a des équipements, des médicaments, tout ce qu'on a dans une chambre d'hôpital.
Vous êtes comme des obstétriciens?
Les obstétriciens sont formés, sont capables de faire des naissances normales, sont formés pour faire des choses plus compliquées.
Okay.
Mais nous autres, on est formés pour faire les accouchements
de base.
De base et pour répondre à toute urgence, pour stabiliser la situation et se rendre à l'hôpital.
On pourrait dire que vous êtes presque comme des super infirmières.
On est comme des super infirmières. Oui, on est comme dans une zone entre gynéco, sage-femme, infirmière, médecin. On est un peu dans une zone entre les
trois. Le diagramme de Venn, vous êtes dans le milieu.
On est dans le milieu. On aimerait se centrer. Mais par exemple, pour des hémorragies, pour les bébés qui sont bloqués à la naissance, dont les épaules sont bloquées, pour des détresses, on n'appelle pas, la terminologie est changée maintenant, mais si on a un cœur qui est anormal chez le bébé, si on a... Un travail qui stagne, si on a un travail super rapide, si on a une femme qui a besoin des antibiotiques, on est formé pour toutes sortes, mais ça, c'est pas une urgence, mais on est formé pour des urgences et toute sage-femme, afin de garder son droit de pratique, a besoin de faire et refaire une certification dans la formation d'urgence obstétricale.
Ah oui?
Oui. Puis, en maison de naissance spécifiquement, le temps de transport est limité.
Ça veut dire que
Le plus rapidement que j'ai fait ça, un transport de la chambre à la maison de naissance à la chambre de l'hôpital, le plus rapidement que j'ai pu le faire, c'est 10 minutes. Mais d'habitude, ça se fait en bas d'une demi-heure. Et si on met ça en contexte en hôpital, on imagine qu'on peut faire une césarienne en 5 minutes, mais ça se fait pas.
Ben non.
Ça se fait pas, à moins que vous êtes déjà dans la salle d'op avec tout le monde les mains lavées, les gants, etc. D'habitude, dans un centre tertiaire où on fait les accouchements à plus grand risque, un délai de 20 à 30 minutes entre la décision de faire une césarienne et le début de la césarienne, c'est décision à incision, on appelle ça, Un délai de 20 à 30 minutes est considéré acceptable parfois partout au Canada. Et on peut se rendre à l'hôpital, on peut alerter l'équipe medical nursing.
Alors, le bloc est prêt.
Le bloc est prêt et tout ça. Donc, on rentre dans les délais nécessaires pour des césariennes.
Alors, c'est intéressant parce que ce que tu dis nous permet de comprendre à quel point les sages-femmes prennent ça au sérieux, tout l'aspect médical, ah, sécuritaire. Oui, c'est pas quelque chose qui est secondaire ou qui est prêt à la légère
du tout. Pas du tout.
Catherine, as-tu une question pour Toby? Ou c'est quoi ton expérience, toi, de maison de naissance?
Bien, moi, j'ai accouché. J'ai 11 enfants d'abord, je ne l'ai pas dit. Un couple de jumeaux, j'ai accouché 10 fois. Mon expérience par rapport à l'accouchement en maison de naissance est assez variée. Moi, je pense, tu sais, ce que vous parlez, là, toi aussi, de l'impression que les gens ont que c'est hippie, que c'est grano, que dans le fond, on s'en fout de la sécurité. Que... Je l'ai senti plus du point de vue des mères que des sages-femmes. Mm-hmm. Des fois, c'est plus dans mon entourage, là, des fois, que dans le corps médical, on pourrait dire, des sages-femmes, j'ai jamais vraiment senti là, cette impression-là que c'était pas sérieux.
On sent qu'on a affaire à des professionnels.
Oui, vraiment. Mm-hmm. Oui, vraiment. Tu sais, dans les faits, elles prescrivent les échographies, elles font elles-mêmes les prises de sang.
Puis, il y a un autre professionnel.
Ben ouais,
il y a un autre professionnel. Puis, tu sais, oublions pas que c'est des études universitaires, là, comme tu dis. Là. Souvent, moi, quand je dis ça aux gens autour de moi, quand j'ai eu ma première il y a 17 ans, j'étais la première dans mon entourage à demander un suivi chez sage-femme. Je l'ai fait en même temps qu'une ou deux amies, mais quand même, j'étais la première à j'ai étudié en sciences infirmières à cette période-là. Puis les questions étaient beaucoup de ce niveau-là. Là. Est-ce que c'est sécuritaire? Ouais. Pourquoi? Etc. Mm-hmm. Puis dans les faits, quand on dit que c'est un bac universitaire, les gens, « Ah, OK, on dirait que ça les sécurise. » Dans le fond, on associe tellement dans notre monde l'importance puis le sérieux aux études que ça, c'est quand même un atout, je trouve, dans une discussion. Là. Les gens se sentent sécurisés déjà avec ça. Ils sont très surpris, d'ailleurs. C'est pas tellement... À mon avis, c'est pas assez publicisé, là, la formation des sages-femmes. Là. C'est sérieux. Puis bon.
On n'est pas du monde, ils travaillent.
C'est ça.
Toby Lynn, tu parlais que l'approche sage-femme tient compte de toutes les dimensions de la personne, ce qui n'est peut-être pas toujours le cas en milieu hospitalier où on est très focus sur les aspects plus médicaux et il y a toutes sortes de bonnes raisons qui expliquent ça, et des fois des mauvaises, mais parmi les dimensions de la personne, une qui nous intéresse nous aussi, c'est la dimension spirituelle. Comment les sages-femmes abordent ça avec la patiente? Et comment ça peut se vivre dans le contexte d'une naissance avec un accompagnement sage-femme, la dimension spirituelle de la personne? C'est quoi, les usages là, de votre côté?
Ben, je dirais que ça peut varier beaucoup dépendant de la sage-femme en question et dépendant de la cliente devant elle et la famille devant elle. Je peux parler plus de mon expérience à moi parce que je suis croyante. Alors, je n'impose rien sur mes clientes. Ma clientèle va comprendre beaucoup de personnes qui ne sont pas croyantes ou qui ont des croyances différentes. Ceci étant dit, quand j'approche n'importe quelle personne, c'est une personne créée dans l'image de Dieu. Alors, c'est une personne incarnée, mais l'âme de la personne est partout dans le corps, autour le corps. Dans les anciennes chrétiennes de l'Est croyaient que l'âme contenait le corps et pas le contraire. Alors, c'est comme si le corps est complètement imbibé de l'âme de la personne. Alors, pour moi, ça affecte beaucoup. Je comprends que notre Dieu respecte notre volonté. Volonté libre, alors c'est pour moi, c'est très important de respecter la volonté libre de la personne devant moi, de respecter leur choix, leurs préférences, leurs désirs. Quand je pose des gestes cliniques et je mets les mains sur le ventre d'une mère, par exemple, pour moi, c'est très important de comprendre que je touche à une personne complète. Mmh. Et c'est pas juste une question d'un corps qui est porteur de quelque chose. Il y a deux personnes, effectivement, complètes. Alors, je pense que ça a un impact sur la façon que je vais faire mes gestes cliniques. Mmh. pour les femmes qui sont croyantes, il y a façon très simple d'utiliser la prière en travail pour aider à la femme. Et c'est jamais des prières très compliquées parce que quand on est en travail, on n'est pas dans notre tête, on est vraiment dans notre corps. Alors, si j'ai à conseiller des femmes ou à discuter avec elles comment utiliser la prière pendant le travail, c'est des choses comme le conjoint, souvent, lui peut prier, des choses simples comme des sons, des façons vraiment très simples et calmes et paisibles de faire ça. Et pour la femme, elle peut trouver des versets simples qui peuvent être alignés avec la respiration. Mmh. C'est des choses qui sont répétées beaucoup. Alors ça, c'est spécifique à des gens qui sont croyants, mais...
Et tu sens que ça les aide? Comment ça les aide? Qu'est-ce que ça change comme dynamique dans un accouchement où il y a une dimension spirituelle plus manifeste, plus... est-ce que tu sens
quelque chose? Moi, je vois que les femmes qui peuvent faire appel à Dieu sont centrées d'une façon plus évidente. Alors, ces moments difficiles du travail, ces moments de panique, on a juste à dire le mot de Dieu, le nom de Dieu, puis parfois ça calme tout, ça change un peu. C'est comme changer la vitesse dans une auto. Surtout pendant la transition, où c'est vraiment difficile pour une femme parce qu'elle est dans une tempête incroyable.
La transition.
Désolée, c'est un peu technique. Mais la transition, c'est le moment entre la fin de la dilatation et les débuts de la poussée. Et c'est souvent où les contractions sont très peu espacées, sont pas forcément plus intenses, parfois oui, mais il y a moins de pauses. Donc, on a vraiment l'impression d'être dans une tempête et... de tenir le coup, c'est vraiment pas évident. Et parfois, si on mentionne à la femme, on dit une petite prière à la femme, très simple. Uh-huh. Ça permet à la femme de s'accrocher à quelque chose de plus grand que elle, parce que l'accouchement est plus grand que nous aussi.
Oui, oui, oui.
Alors, de pouvoir s'accrocher à Dieu dans des moments difficiles. Puis, ça rend évident la sainteté de ce qui arrive.
Ça, il se passe quelque chose de sacré, presque.
Oui, c'est ça. Ça rend évident le fait que c'est sacré, mettre un enfant au monde, un enfant dans l'image de Dieu.
Mais vous, comme sage-femme croyante, est-ce que ça vous est déjà arrivé de soutenir spirituellement une autre croyante?
Oui. Le privilège, la traite, le plus incroyable pour moi dans ma pratique. Dans ma pratique, quand je suis dans l'auto en train de conduire à un accouchement, je demande toujours au Seigneur de bénir mes mains, mes capacités cliniques, la clarté de pensée, les besoins de la femme devant moi, les besoins de son bébé. Toujours, c'est une prière que je vais dire pour toutes mes clientes. Et pendant le travail, si elles voient que je vois que c'est un moment plus difficile pour elles, je vais prendre le moment pour prier aussi. Ça, c'est pour tout le monde. Mais de pouvoir faire ça de façon évidente et ouverte, c'est vraiment génial. C'est un privilège.
Tobilyn Bayarova, merci beaucoup pour ces explications, pour ce témoignage aussi. Et on poursuit la discussion avec James et Catherine pour la suite de l'émission. Merci beaucoup.
Plaisir.
On n'est pas du monde est une émission produite par l'équipe du magazine Le Verbe. Pour vous abonner gratuitement et recevoir 8 numéros par année, visitez leverbe.com/abonnement.
James Langlois, bonjour.
Rebonjour.
Rebonjour. Hein. Pas besoin de fouiller beaucoup pour trouver des histoires de naissance dans la Bible. Dans la Bible, il y en a des dizaines, mais pour les besoins de la cause, tu as fait une sélection, la crème de la crème.
Mais quand on y pense, l'accouchement, c'est vraiment au cœur de l'histoire du salut, tu viens de le dire.
Au cœur de l'histoire du monde. Hein.
Pas de doute.
On serait pas là, imagine.
Non, c'est ça. Mais on voit que dans l'histoire sainte, aussi dans la... dans le récit biblique, dans la manière dont aussi les livres bibliques sont agencés, c'est vraiment aux trois moments phares de l'histoire du salut, c'est-à-dire au commencement, au milieu et à la fin. Au commencement, pourquoi? Parce que dès la Genèse, même le mot Genèse, c'est début, il y a une forme de, tu sais, on pourrait dire que Dieu accouche de la création, mais bon.
On pourrait.
Il y a le fait que cette fameuse phrase, qui parfois est mal interprétée, au moment où il y a le péché originel qui se commet, eh bien là, Dieu va dire à Ève, maintenant, tu vas enfanter dans la douleur, et à l'homme, toi, tu vas suer, tu vas travailler au travail de tes mains. C'est sûr qu'on pourrait, spontanément, on pourrait interpréter ça comme une espèce de condamnation, mais c'est plus que ça, parce que automatiquement, Dieu met la souffrance devient un moyen, parce que Dieu se sert toujours du mal pour le bien, et là, il utilise la souffrance pour l'utiliser pour le salut de l'humanité. Il va l'associer au mystère de la vie, qui est le fait de transmettre la vie. C'est pourquoi, d'ailleurs, Ève, c'est la mère de tous les vivants. Parce qu'on dit que ce sont nos premiers parents, donc ils ont donné naissance à tous ceux qui viennent après. Mais aussi, tout de suite après, il va y avoir cette fameuse association entre dire le serpent, tu vas lui écraser la tête et tu vas piétiner sa descendance. Il ne le fait pas à l'homme. Pourquoi? Parce que c'est vraiment la femme. Et il va toujours avoir ce combat entre le serpent, là on va dire le démon, le malin, et la femme. Il va toujours s'attaquer à elle, parce que c'est elle qui porte le mystère de la vie. C'est elle qui l'utérus, c'est sacré, on l'a dit un peu avant. Et là, ça nous amène justement à la naissance de Jésus. On pourrait remonter quelques mois avant, déjà Marie qui apprend que sa cousine Élisabeth est enceinte, elle va se rendre à son chevet pendant quelques mois pour l'assister à son accouchement. On pourrait presque penser que Marie a vécu une initiation à l'accouchement à ce moment-là. Ça a peut-être été un peu comme une espèce de sage-femme pour Élisabeth.
Qu'est-ce que tu en penses, Toby?
Absolument. Ouais. Si on regarde les icônes anciennes des accouchements saints, on dirait, il y a toujours des sages-femmes dans les icônes.
Mmh. Ah ouais.
Mmh. À moins qu'ils sont super petits, mais les icônes de grandeur.
Mais ouais. Je fais une parenthèse, mais dans l'Exode, hein, au début, quand le pharaon ordonne aux sages-femmes de tuer tous les premiers-nés du peuple hébreu, c'est les sages-femmes qui obéissent à leur conscience et qui décident de prendre Moïse et plutôt que de le tuer, de l'emmener dans un panier et le mettre de côté. Donc, les sages-femmes ont vraiment un rôle important.
Elles avaient des noms, Shifra et Pua.
Oui, oui, c'est ça, Shifra et Pua, exactement. Elles craignent Dieu d'une certaine manière.
Oui.
On ferme la parenthèse. Donc, Marie, déjà, on sait dans l'histoire, la naissance a toujours été une affaire qui a été transmise, apprendre à accoucher de manière physiologique, etc. Donc là, Marie arrive à son propre accouchement et elle met au monde Jésus, finalement, qui est le sauveur tant attendu. Et on voit dans l'iconographie orientale que Jésus, souvent, c'est pas la naissance pour la naissance, parce que ici, Jésus, son but, c'est pas juste de naître, oui, c'est de devenir, mais c'est ultimement d'aller à la croix. Et on voit que Marie, dans l'iconographie orientale, l'enfant Jésus est enveloppé, est comme mis dans un tombeau.
Presque, oui, c'est ça.
Puis, donc, ça montre que le but ultime de sa naissance
pointe déjà vers
la croix. Qui est... Puis Marie, on dit aussi dans le dogme catholique qu'elle n'a pas souffert à son accouchement, parce qu'évidemment, elle n'était pas... Comme elle était conçue sans péché, elle n'a pas hérité de cette souffrance-là, mais elle a souffert quand même spirituellement de la mort de son fils comme co-rédemptrice presque du genre humain. Parce que
au pied de la croix, elle accouche de d'autres choses. Ouais,
au pied de la croix, c'est l'époux qui se donne à son épouse, l'Église, et qui donne naissance justement à son peuple, qui donne naissance à tout le peuple des baptisés à l'Église. Et c'est à ce moment-là que Marie, finalement... Elle devient la mère de tous les croyants. Donc, elle a accouché dans la souffrance quand même, peut-être pas physiquement, mais spirituellement.
Alors, on avait Ève au début de l'histoire sainte, qui est la mère des vivants. Mm-hmm. La Vierge Marie, qui est la mère de l'Église, hein, c'est un de ses noms, d'ailleurs.
Exactement.
Et la mère du Christ, la mère de Dieu, évidemment. Mais, et il y a le troisième pôle, on pourrait dire, des Écritures qui tourne autour aussi de l'accouchement.
C'est ça, qui est dans l'Apocalypse, la fameuse femme couronnée d'étoiles dans le ciel. Et là, il y a le dragon à sept têtes qui lutte encore, ce qui rappelle ce fameux combat dans la Genèse.
Ça vient comme boucler la boucle.
Et là, qui montre que les enfants, la femme a peur, elle est en train d'accoucher dans la douleur, elle a peur parce que les enfants à qui elle donne naissance, c'est-à-dire les nouveaux chrétiens, ils sont dans un combat spirituel, ils sont... tenter d'être dans la mort, finalement, de tomber, de mourir. et non pas de vivre dans la nouvelle vie qui est promise par Dieu. Donc, il y a tout ce combat-là. C'est pourquoi, finalement, l'accouchement du début à la fin de la Bible nous montre la vie chrétienne comme un combat de la mort pour la vie. Et ça nous montre que toute la vie chrétienne, c'est un accouchement. Au fond, c'est le mystère pascal d'une souffrance qui nous amène à la vie.
Wow!
Tout ça, c'est une petite théologie.
Ben oui, c'est ça. Mais c'est dense, c'est dense.
C'est merveilleux.
Tu pourrais nous pondre un petit texte là, sur le verbe là, avec tout ça, James?
Je pourrais, mais sinon, je vous invite à lire l'accouchement de traversée spirituelle. Les auteurs disent qu'il n'y a pas beaucoup, il n'y a vraiment pas de livres qui font une théologie de l'accouchement, puis au contraire, c'est fondamental, celui-là en est un.
On aura la référence complète à la fin de l'émission. Restez avec nous.
Tout à fait.
Merci, James.
Je t'en prie.
Catherine Richard, bonjour.
Allô.
Épouse, mère de 11 enfants de 17 à 1 an. 1 an, oui. Formée en théologie et en sciences infirmières, entrepreneur. Hein, tu as mis sur pied l'entreprise Coton Piqué. Salut. Et on est très heureux de.
Hein? Pub.
Pub. Oui, c'est ça. Petite plug. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, on voulait parler de naissance, d'accouchement, de périnatalité et aussi de spiritualité. Ben, pour bien faire les choses, on a invité une experte, non pas en spiritualité, quoi que tu
sûrement... Une experte en spiritualité, c'est une bonne question.
Mais en accouchement, en tout cas, t'en as vu.
Oui, bien, c'est sûr, j'ai accouché 10 fois. Comme je disais, j'ai des jumeaux, fait que ça me fait 10 accouchements. Par contre, j'ai jamais eu de césarienne. Fait que j'ai pas l'éventail complet des différents types d'accouchements, mais j'ai accouché en maison de naissance 6 fois, 5 fois à l'hôpital. J'ai été accompagnée par des sages-femmes dès le début, dès mes premiers enfants. Ce qui m'a motivée là, à avoir un suivi sage-femme, c'était vraiment l'aspect plus naturel de pas voir la grossesse et l'accouchement comme une maladie ou comme... J'ai étudié à l'époque en sciences infirmières, puis je me souviens dans un cours, ils nous avaient présenté les 3 façons d'accoucher au Québec, sage-femme, médecin, gynécologue, médecin général et puis un gynécologue. Puis j'avais été vraiment touchée puis interpellée par cette approche-là parce que je connaissais pas ça. J'avais personne dans mon entourage qui avait accouché avec des sages-femmes, à part ma belle-mère, c'est vrai, qui, il y a déjà 40 ans, là, avait accouché de façon allégale parce qu'il n'y avait pas de loi encore.
C'était pas légalisé encore.
Non, ça, c'était pas légalisé. Elle accouchait chez elle avec des sages-femmes. Mais sinon, j'avais pas de contact. Puis j'aimais cette approche-là, que la grossesse, c'est une expérience physiologique normale. Dans le fond, tu sais, depuis que le monde est monde, les femmes accouchent, puis pour dire que c'est médicalisé, puis que c'est, dans le fond, surtout ce qu'on a voulu faire, c'est éliminer la douleur. C'est surtout ça, là, dans le fond, qui fait que c'était à l'hôpital. Fait que cet aspect-là de la douleur, de la souffrance qui est liée à l'accouchement en tant que tel, moi, je suis rentrée là-dedans un peu naïvement, je pense, en première. J'ai toujours été quelqu'un qui recherche le confort, assez chochotte. Mais on est rentrés vraiment all-in, mon mari puis moi. On n'a fait aucune échographie à la première grossesse. Je pense qu'on n'a fait aucun test, même sanguin. On est arrivé à l'accouchement en n'ayant aucune idée de qui allait naître, dans quel état non plus. T'sais, maintenant, avec les échographies, on est capable de... Moi, j'ai eu d'ailleurs mon couple de jumeaux. Si j'avais pas eu d'échographie, il serait sûrement pas né. Mais nous, on était un peu dans cette lancée-là, un peu hippie, peut-être, comme je disais. Oui.
T'sais, tu disais, dans le fond, je voulais comme éviter la douleur, tout ça, là?
C'est pas que je voulais éviter la douleur. Je dis juste que c'est assez récent qu'on accouche de façon médicalisée.
Ah oui, c'est ça, c'est ça.
Parce que depuis que le monde est monde, les femmes sont capables d'accoucher sans nécessairement.
Exact. Tu sais, c'est sûr qu'aujourd'hui, on a le choix de prendre les femmes ont le choix de prendre la péridurale. Mais il reste que même à ça, tu sais, avant ou après l'accouchement, il reste que vivre, enfanter, il y a un élément de souffrance là.
Il va en avoir tôt ou tard.
C'est sûr. Là, les grossesses, c'est souffrant. Plus on en a, plus on vieillit aussi. Moi, les dernières grossesses sont pas comme quand j'avais 21 ans. Là. Je vais avoir 40 ans. C'est plus aussi le poids de toutes les grossesses antérieures, s'occuper de déjà 9-10 enfants. Non, c'est sûr. Mais il y a quelque chose de particulier avec la douleur de l'accouchement. Même s'il y a une expérience souffrante de la grossesse puis aussi en postpartum, l'accouchement, c'est quand même d'une intensité rarement vue. D'ailleurs, dans mes études, j'ai appris que le muscle le plus fort qui est capable d'avoir une intensité la plus grande, c'est l'utérus. Si on compare tous les muscles du corps, parce qu'il est capable de se contracter à une rapidité puis une intensité puis une durée aussi.
Ouais, ouais, c'est ça. Aucun autre muscle... On pourrait pas demander ça à notre biceps, là. On pourrait jamais lui demander un téléphone.
Aucun muscle peut faire. Fait qu'avec ça vient une souffrance. Ouais. En fond, c'est pas juste un exploit. Il y a une souffrance qui vient avec ça. Puis mon expérience spirituelle, c'est vraiment... a évolué là, de ma première grossesse à la dernière. A aussi rétrogradé. Tu sais, dans le fond,
c'est
ça bouge.
Long, c'est pas un long
c'est
fleuve,
pas comme... j'ai accouché plusieurs fois. Maintenant, je suis rendue la queen des accouchements. Je sais comment faire, puis c'est facile. Ça dépend aussi de comment on est à l'intérieur. Tu sais, pour moi, l'accouchement, c'est pas seulement souffrir physiquement. Il y a quelque chose dans accepter la croix. Puis il y a quelque chose dans accepter la souffrance en général. Comment je rentre dans cet événement-là, tout comme comment je rentre dans les autres difficultés de la vie, pour souffrir pour un autre. Mmh. Hein, c'est ça la dimension spirituelle, je trouve, dans l'accouchement. Comment je veux rentrer dans la souffrance? Il y a des accouchements où je ne me sentais pas capable de rentrer dans cette souffrance-là physique pour un autre, où j'ai accouché avec l'épidurale, puis que j'ai eu une belle expérience d'accouchement. Je pense qu'il y a quelque chose d'important dans des... Je vais faire attention à mes mots.
Désidéaliser la souffrance.
Dédramatiser. Surtout quand on est dans une optique de le plus naturel possible, le plus beau possible, le plus cocooning, le plus peau à peau, etc. C'est toutes des belles choses. Mais...
L'accouchement, c'est pas un fil Instagram. Là. C'est pas... Non, mais c'est ça. Il y a ce danger-là de vivre une expérience totale, parfaite.
Il faut se rappeler.
Ouais, une performance en accouchement.
Exactement. Il faut se rappeler. C'est quoi qui se passe, puis c'est quoi le but? Présentement, quand j'accouche, je vais accueillir un enfant. Dans le fond, la façon que ça se passe, techniquement parlant, oui, il y a des façons qui vont favoriser un plus bel accueil. Il y a des technicalités qui vont rendre l'accueil plus difficile. Mais j'ai l'impression que tout est dans le cœur, parce que moi, j'ai vécu des accouchements naturels où j'étais... pas en colère, c'est un gros mot, mais j'étais tendue, en résistance, pas du tout... à accueillir cette douleur-là. Puis, alors que j'en ai eu un qui était en épidurale où la grossesse avait été très difficile, puis cet accouchement-là a comme renversé mon attitude face à la grossesse. J'ai vu le bébé, j'ai tout oublié le reste de la grossesse qui était plus difficile. Pour moi, c'est plus d'aller plus profondément dans ce qui se passe. C'est pas juste une question de comment j'accueille les contractions, comment je respire. C'est je suis là pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pour moi, les accouchements, c'est un moment d'éternité. Parce qu'au moment où l'enfant est là, il a toujours existé et il existera toujours. À partir du moment où il est né, il n'y a pas de « Ah, avant qu'il était plus là », on ne peut plus s'imaginer le passé sans l'enfant.
C'est vrai.
Puis on ne pourra plus s'imaginer, même s'il meurt deux minutes après, on ne pourra plus jamais vivre le futur sans la présence. Fait qu'à partir du moment où l'enfant est là, le ciel tombe sur la terre, puis il n'y a plus de temps. L'enfant a toujours existé et existera toujours. Peu importe la façon que ça s'est vécu.
Tu sais, tu l'as évoqué rapidement au début, là, tu disais que tu n'as pas vécu de césarienne, mais la césarienne, ce n'est pas un demi-accouchement ou c'est pas.
Ben non, un accouchement raté.
Un accouchement raté. Je suis sûr qu'il y a des gens qui nous écoutent présentement et qui se disent « Ah, mais moi, je n'ai pas eu la chance. »
Pas du tout.
Mais c'est, moi, j'ai été profondément ému de voir ma femme en croix. Tu sais, il y a quelque chose de. T'sais, j'en parle, je suis ému parce que
c'est marquant,
c'est pas rien, là, cette image-là, parce que là, on voit d'une autre manière que l'accouchement naturel, mais quand même la souffrance où il y a quelque chose dans le moment même de la césarienne, mais aussi après, c'est pas jojo, là, la douleur, etc.
Mais
ce rapport-là, Catherine, ce rapport-là à la souffrance, tu dis qu'il a évolué, qu'il y a eu des hauts, des bas. Est-ce que c'est nécessaire de souffrir pour donner la vie?
Ben,
je fais référence un peu à ce que James disait avec Ève. Là,
est-ce que c'est nécessaire? Ça, c'est une grosse question en 2023 pour n'importe quelle situation de vie. Pour aimer, est-ce qu'on est obligé de souffrir pour aimer? Je pense pas que c'est une question d'obligation. Je pense que la souffrance va venir puis que la souffrance est là. Je suis pas mal certaine que tous les auditeurs présentement portent à l'intérieur d'eux une souffrance, qu'ils soient enceintes ou pas, qu'ils soient un homme ou une femme. La souffrance est là. La souffrance donne une autre dimension à l'événement si on entre dedans. si on accepte de souffrir pour l'autre, l'amour se concrétise et devient beaucoup plus profond, devient plus palpable. L'amour que je ressens pour mon enfant, quand je pile sur mon orgueil pour demander pardon, quand j'accepte de souffrir physiquement ou de souffrir, je sacrifie mon temps, cet amour-là purifie ma relation. Puis je pense qu'un accouchement, qu'on accepte de vivre la souffrance, peu importe comme elle soit, la souffrance, ça peut être réellement de ne pas souffrir physiquement. Quelqu'un qui n'a jamais vécu de contraction, puis qui va à la césarienne comme en allant...
À l'abattoir,
ça peut être une réelle souffrance. Ouais. Comment je rentre dans cette souffrance-là, dans cette croix-là qu'on parle dans le jargon catholique? Là? Est-ce que j'accepte de rester sur la croix, les bras ouverts, en acceptant la situation comme elle m'est présentée, ou je ne veux pas y aller? En arrachant les bras, je me blesse davantage. Mm-hmm. Si je refuse la croix puis que je veux... me replier sur ma main, mais les clous qui sont dans ma main déchirent. Je préfère voir ça. Moi, de toute façon, je ne suis pas une personne de méthode ou de règles. J'ai une légère tendance à l'opposition. Comment on appelle ça? Le trouble de l'opposition. Ouais. Si on me dit c'est quoi la bonne méthode, je vais. C'est ça. J'ai une légère tendance à ça. Fait que j'aime mieux. Pour moi, la souffrance, c'est plus une expérience qu'il faut souffrir. Pour donner la vie. Donner la vie, c'est souffrant. Mourir pour l'autre, c'est souffrant, que ce soit d'un accouchement ou pas. Alors, moi, je pense que c'est une question de disposition puis de comment je veux le vivre.
Toby Lynn, toi qui es sage-femme, tu vois des centaines, tu as vu des centaines d'accouchements. Comment tu entends ce que Catherine raconte?
Bien, ça me rejoint beaucoup. Je pense que c'est un peu pour ça qu'on voit le côté sacré de ce moment d'accouchement. Et le fait que, j'oublie le verset, je le sais, je le connais en anglais, mais pas en français, mais il y a le mystère que si on accepte la souffrance, la douleur, dans le nom de Dieu, il y a quelque chose qui guérit dans l'univers, à travers les douleurs de Christ. Alors, c'est cette douleur, et j'apprécie énormément ce que tu as dit au sujet de la souffrance qui accompagne, par exemple, une césarienne. Mm-hmm. Récemment, j'ai eu une cliente qui tenait à 100% à avoir son accouchement à domicile, puis elle a été prise avec une césarienne au bout de la ligne, et la souffrance de cette femme était particulièrement aiguë. Et quand je vois la capacité d'une femme de souffrir pour l'autre, je vois la guérison de l'univers. Ça fait partie de comment on peut aimer notre monde.
Mm-hmm. Oui, James.
Je trouve que par rapport à l'accouchement, il y a quand même deux phénomènes assez particuliers. C'est-à-dire, il y en a un que le fait que le corps souffre, mais souvent la souffrance physique est associée à un problème, à une maladie, alors que là, on souffre pour donner la vie. Il y a quelque chose d'un peu déstabilisant là-dedans.
C'est paradoxal.
Paradoxal. Oui. Puis deuxièmement, tu en as parlé tantôt, mais la fameuse transition où la femme embarque dans... elle a presque l'impression qu'elle va mourir, mais il y a quelque chose d'un acte de foi qui doit être fait presque pour dire non, ça va aller, là, c'est correct. Là. C'est quand même particulier.
C'est parce qu'aussi, il y a une issue connue.
Ouais.
C'est pas comme si je souffre sans savoir est-ce que j'ai une appendicite, est-ce que j'ai un gros mal de dents.
Un cancer.
C'est ça. Il y a une issue qu'on connaît, qu'on présuppose positive là, la plupart du temps quand même.
Mais non, pas toujours. Parce que oui, on a une issue connue, mais quand on est dans la tempête, souvent les femmes oublient qu'il y a un bébé. Mm-hmm. Et il n'y a que cette intensité autour. Alors, je pense que dans la grande majorité des cas, c'est quand même un acte de foi. Mm-hmm. Parce que connaître quelque chose dans cet état-là, ça se fait presque pas.
Mm-hmm. C'est peut-être un peu aussi un acte de foi, mais un acte d'espérance. C'est-à-dire quelque chose... On espère quelque chose qu'on ne connaît pas tout à fait encore, mais qui est plus grand.
Ce que je voulais dire, c'est que dans le fond, il y a un sens à cette souffrance-là, même si...
beaucoup plus évident que d'autres
plus évident que...
Qui n'est pas absurde. Qui n'est pas absurde,
qui est d'une souffrance liée à une dysfonction physique ou une maladie. Là. C'est dans ce sens-là que je voulais dire. Mais c'est vrai que j'ai eu des périodes où c'était la noirceur, là, des bouts où je me disais... J'ai eu plusieurs complications à plusieurs accouchements, là, des rétentions placentaires, j'ai eu beaucoup d'hémorragies, plein d'affaires. Puis il y a des périodes où j'avais tellement mal, puis je me disais, hey, moi, je veux plus jamais. Je regardais mon mari dans les yeux, puis je disais, hey, c'est fini. Ça fait mal, mais une prière me revenait souvent, c'était, je pense que c'est Sainte-Élisabeth d'Hongrie qui disait, j'oublie ma croix au Jésus lorsque je songe à la vôtre. Puis ça, ça m'aidait comme un peu une phrase qu'on se répète, une prière du cœur ou un mantra ou je sais pas comment... C'est une phrase qu'on se répète. Ça aide à se décentrer puis à essayer de retrouver le sens de ce qu'on est en train de vivre.
Une dernière question, Catherine. Qu'est-ce qui peut être fait dans les communautés chrétiennes, dans les voisinages, dans les familles? Tu parlais d'entourage un peu au début. Pour que l'expérience ou le phénomène de la naissance pour la femme soit vécu plus sereinement?
Comme je disais, moi, je suis pas quelqu'un de méthode ou de façon de faire qui dit « fais ça, puis ça va bien aller ». Je crois pas vraiment à ça, quoique des fois, c'est nécessaire, là, mais je pense que tout est dans l'approche de... dans l'accueil, dans le fond. Comment j'accueille cette grossesse-ci? Est-ce qu'elle est voulue ou pas? Comment j'accueille mes souffrances physiques? Comment j'accueille cet accouchement-là, cet enfant-là aussi après? Parce que l'accouchement aussi, c'est les premières semaines, on pourrait dire, ça se prolonge. Là, c'est difficile aussi les premières semaines quand le petit bébé est là. On se sent sur une autre planète, carrément. Là, on dirait que la Terre tourne pour tout le monde, mais que la tienne a arrêté de tourner. Fait que c'est sûr que l'accompagnement puis accueillir la femme, laisser exprimer, puis pas être gêné d'être fru ou d'être révolté ou d'avoir des journées que ça ne tente plus ou... laisser ça sortir pour après être capable de l'accueillir, je pense que c'est quand même une... solution gagnante, là. L'accueil de ce que je vis, puis l'accueil de aussi l'autre qui est à côté de moi, mettons une femme enceinte, les autres enfants, accueillir cette réalité-là dans la paix si elle est là, puis sinon dans l'espérance qu'elle va venir, puis qu'il y a réellement une joie à perdre sa vie pour un autre. Là. Peut-être des expériences quotidiennes. T'sais, mettons que pour quelqu'un, c'est plus difficile d'envisager l'accouchement, peut-être que d'ici l'accouchement, des petites expériences quotidiennes, de perdre sa vie pour un autre... peut donner du sens à cette expérience-là de l'accouchement.
Comme quoi, par exemple? Qu'est-ce qui te vient en tête? Là?
Mettons...
Faire un service pour quelqu'un.
Quelque chose qui nous tente pas trop. Donner un peu de son temps à un enfant, un voisin, une voisine. Écouter quelqu'un qui a besoin d'être écouté. Ou même accepter de sacrifier des choses qu'on veut faire pour se reposer soi-même, prendre du temps. C'est juste une question de petits sacrifices sur ce qui monte en moi qui est peut-être impulsif, est-ce que c'est vraiment ça que j'ai de besoin? Est-ce que l'autre qui me demande, est-ce qu'il me dérange pour quelle raison? Est-ce que j'ai besoin? Ça serait bien que j'aille l'aider de perdre un peu sa vie. Là,
alors, tout ça, ça peut servir d'entraînement, finalement,
je réfléchis
du grand jour.
Mais c'est
bienvenu, franchement.
C'est une bonne idée, mais moi, j'ai l'impression
c'est pas fou, je trouve ça pas fou, ce que tu racontes.
J'ai l'impression que le mot « accueil », il me semble que ça serait... la bonne façon d'envisager une grossesse ou un accouchement, accueillir ce qui monte en soi sans être scandalisé, sans performance, sans attendre que c'est le moment... Ce sera peut-être pas le meilleur moment de toute ta vie, l'accouchement en tant que tel, mais... Tu sais, moi, dans la Bible, on dit la femme oublie, qu'elle voit l'enfant, elle oublie toutes les... Ça m'a toujours dérangée, parce que moi, c'est pas vrai que ça fait ça, que... C'est pas vrai que j'ai oublié toutes les souffrances des accouchements puis que je me dis « Ah... »
On passe l'éponge, c'est
ouais,
fini.
Oui, non, mais quand il y a un sens à ça, c'est vrai qu'il y a un autre regard, par exemple, sur l'événement. Mon regard est différent.
Catherine Richard, mère de famille nombreuse et entrepreneur, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous partager.
Ça fait plaisir.
Vous avez un commentaire, une suggestion ou une question pour l'équipe d'On n'est pas du monde? Contactez-nous via les pages Facebook et YouTube du Verbe Média ou écrivez-nous directement à onpdm@letraitdunionverbe.com.
C'est déjà tout pour cette semaine, mais avant de se quitter, des suggestions culturelles de nos chroniqueurs. Commençons avec Catherine, tiens.
Bien, moi, j'ai lu, avant d'accoucher de ma première, un livre d'une sage-femme, Isabelle Brabant, qui est une sage-femme pionnière ici au Québec, qui a écrit « Une naissance heureuse ». C'est un livre qui nous permet d'apprivoiser l'accouchement, l'arrivée des contractions, qui explique aussi là, bien la grossesse puis le fonctionnement biologique de l'accouchement.
Physiologique
de l'accouchement. Je trouve que c'est une belle entrée en matière. C'est une... Pour une femme qui n'a jamais accouché, là, du moins, moi, ça m'a guidée. Je me souviens à mon premier accouchement que j'ai utilisé certaines techniques que j'ai lues dans ce livre-là. Ça, je pourrais conseiller ça là, à quelqu'un qui veut accoucher naturellement, du moins. Ouais.
Une naissance heureuse d'Isabelle Brabant. Merci, Catherine. James?
Alors, j'en ai parlé tout à l'heure, mais je suis vraiment pâmé devant ce nouveau livre qui est sorti en 2023, L'accouchement, une traversée spirituelle. C'est préfacé par Fabrice Hadjadj.
Notre collaborateur.
Oui, rien de moins. Juste sa préface à lui vaut la peine. Mais bon, c'est rédigé. C'est intéressant comment c'est écrit. C'est co-rédigé. Donc, des fois, certains chapitres, tu vois les initiales de l'un, de l'autre, okay. pour dire... Okay,
c'est un couple ou...
Non, c'est un prêtre qui est délégué diocésain pour les jeunes et les vocations au diocèse de Marseille, okay. diplômé de l'Institut biblique pontifical de Rome. Il enseigne l'exégèse et l'hébreu au séminaire d'Aix-en-Provence.
Et comment puis, il s'appelle?
Thomas Mellac et Marguerite de Monico, qui est mariée et mère de 5 enfants diplômés en histoire médiévale.
Okay.
Donc, les deux, comme on disait tout à l'heure, il y a plus ou moins de livres, de traités sur les aspects spirituels et théologiques de l'accouchement. Et eux, ils ont décidé de prendre le sujet à bras-le-corps, puis ils traversent toutes les, en tout cas une bonne partie des passages bibliques. Ils nous amènent à approfondir ça, puis voir à quel point l'accouchement, c'est au cœur, au centre de la révélation du mystère chrétien. C'est, wow. C'est fabuleux. C'est excellent.
Merci beaucoup, James. On rappelle le titre et l'histoire. Oui,
L'accouchement, une traversée spirituelle, paru en 2023 chez Mediapol.
Génial. Merci beaucoup. Merci, Catherine. Merci, James, pour votre présence aujourd'hui. Un grand merci à Toby Lynn Bayerova qui s'est déplacée jusqu'à nos studios.
Dans ses journées de congé.
Ben oui, c'est ça. On sait que la vie des sages-femmes est bien occupée au Québec. Là, elles sont très en demande. Alors, merci d'avoir pris le temps avec nous là, pour nous éclairer sur la pratique sage-femme au Québec. C'était passionnant et bonne continuité dans ta pratique.
Merci, j'apprécie énormément.
Super. Et merci à vous d'avoir été avec nous. On se dit à la prochaine pour un autre épisode dont On n'est pas du monde.